Avec Audiolib, écoutez le prix Goncourt.
Pour le commerce, la guerre présente beaucoup d'avantages, même après.
Au revoir là-haut, de Pierre Lemaître, en librairie et sur audiolib.fr.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le numéro de printemps du magazine Détour en Histoire est en kiosque, avec une couverture consacrée à Napoléon et aux femmes qui ont illuminé sa vie. Franck Ferrand, lui aussi, est en couverture de ce magazine. Ah oui. Bonjour Franck.
Bonjour Céline. Bonjour à tous. J'ai en effet participé à ce numéro à travers une promenade temporelle dans la grande histoire de Versailles, et dans la petite aussi d'ailleurs. Le dossier de Détour en Histoire sur l'entourage féminin de l'empereur m'offre l'occasion toujours bien agréable de recevoir Jean Tullard cet après-midi. Nous a rejoint aussi un tout jeune invité, puisque Fabien n'a que 21 ans, et déjà il produit un grand spectacle napoléonien dans le théâtre antique d'Orange, s'il vous plaît. Je lui ai demandé de venir nous raconter tout cela.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Benoît sur l'origine de l'expression « aller à Canossa ».
Ah, ça c'est une origine très historique et qui met en scène un autre empereur. Là, c'était l'empereur germanique Henri IV en l'occurrence. Pour le moment, je vous propose de retrouver Napoléon en galante compagnie. Il y a la Désirée, je vais vous raconter ça dans un instant. Et puis Éléonore, Marie, Giuseppina, Pauline et Betsy. Et puis aussi Joséphine, évidemment. Joséphine à laquelle deux très belles expositions sont consacrées ces jours-ci. Il y en a une qui est déjà ouverte au musée du Luxembourg et une autre qui va ouvrir incessamment à la Malmaison, bien sûr.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Depuis deux siècles, la saga impériale occupe à plein temps un certain nombre de bons esprits. Je pense à Arsène Houssay, Louis Madelin, Octavo Brigadis, aujourd'hui Thierry Lenz, Marie-Pierre Rey, Patrice Guénifet, entre autres. Deux grands noms se détachent de ce qui est devenu quasiment une école, disons-le. Jean Tullard, évidemment, que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui, et le Tullard d'autrefois, si j'ose dire, Frédéric Masson, un bibliothèque des affaires étrangères qui avait été le secrétaire du prince Napoléon et a consacré au Premier Empire de quoi remplir de nombreux rayons. En 1893, c'est son Napoléon et les femmes qui l'a rendu célèbre. Il devait enchaîner avec toutes sortes de biographies de Marie Walewska, des sœurs Bonaparte, de Joséphine, de Marie-Louise, de Madame Mère, entre autres. L'un des chapitres les plus fameux du Napoléon et les femmes de Masson est évidemment consacré à celle qu'on a surnommée la petite provinciale, la fiancée de Napoléon, cette Eugénie Désirée Clary que Napoléon lui-même appelait Eugénie et qui un jour deviendra reine de Suède. Quand il la rencontre, Napoléon est encore tout jeune, tout inconnu, si j'ose dire, on est en pleine terreur à ce moment-là. À Marseille, nous explique Bernard Boringe, un bon nombre d'inoffensifs bourgeois ont été incarcérés et attendent dans l'angoisse leur sort. La famille de Désiré a été particulièrement touchée par ce vent révolutionnaire qui tel le Mistral, est descendu jusqu'à Marseille. Son frère Étienne est en prison pour tentative d'insurrection. Un autre frère, Justinien, craint d'être guillotiné. D'ailleurs, il en a tellement peur qu'il va finir par se suicider, peut-être un peu vite. Quant au père, François, devant tant de désastres qui s'abattent non seulement sur sa famille mais sur son pays, il finit par mourir de chagrin. C'est donc dans ce climat délétère, c'est en 1794 que Napoléon Bonaparte va rencontrer Désiré. Alors, comment est-ce qu'il la rencontre? Eh bien, c'est son frère Joseph qui l'emmène chez les Clary. Et Joseph lui-même a rencontré Désiré dans des circonstances qui valent d'être narrées. En fait, je vous ai dit que le frère de Désiré et de sa sœur Julie, qui s'appelait Étienne, se trouvait incarcéré. Alors, Marcel, qui est l'épouse d'Étienne, elle est née Marcel Gay, elle va se rendre devant les autorités révolutionnaires à Marseille. On est en février 1794, elle va demander la grâce de son mari d'une certaine manière. Elle est accompagnée de Désiré et on les fait attendre, on les fait patienter, les deux pauvres jeunes femmes. Désiré s'assoupit, elle est là avec sa belle-sœur, mais au bout d'un moment elle finit par s'endormir et au bout d'un très long moment, on finit par faire entrer la belle-sœur dans un petit office, dans un petit bureau, où elle obtient la libération de son mari. Et elle est tellement contente, tellement heureuse, qu'elle ressort de là, guillerette, soulagée, et elle oublie sa belle-sœur qui continue à dormir sur le banc. Et c'est là que va la découvrir dans la soirée un certain Joseph Bonaparte. Alors elle lui explique ce qu'elle est en train de faire ici. Il lui dit « Ah, mais si c'est de votre beau-frère que vous venez chercher la grâce, rassurez-vous. Et vous, ça y est, l'ordre de libération a déjà été signé. » Et Joseph propose à cette toute jeune fille, elle a 16 ans à peine, il lui propose de la raccompagner chez elle. Et pour le remercier, arrivée devant la maison, bien, elle lui propose de lui présenter la famille et de lui présenter notamment sa mère. C'est ainsi que Joseph Buonaparte, à l'époque, est entré, si j'ose dire, dans la famille Clary. Alors, il parle de sa famille à lui, de son frère, Napoléon. Joseph plaît bien à la mère de Désirée, qui se dit qu'après tout, elle pourrait peut-être le marier à sa fille aînée, Julie. C'est ce qui va d'ailleurs arriver, mais on n'en est pas tout à fait là. Donc, pour le moment, Joseph emmène son frère, emmène Napoléon chez Désirée et Clary. Alors, il y a donc, je vous dis chez Désirée, mais il y a également la sœur. Julie, elles sont très différentes l'une et l'autre. Il faut vous dire que Joseph est assez intéressé. Il sait très bien que épouser l'une des deux sœurs, ce serait tout simplement faire un excellent mariage, puisque le père, celui qui est mort de chagrin, je vous l'ai dit, avait mis de côté pour chacune de ses filles une dot de quelques 100 000 livres, ce qui à l'époque est vraiment considérable. Donc Joseph est pour le moins intéressé. Il faut vous dire que les Bonaparte traversent une passe difficile à la même époque. Et d'une certaine manière, il compte sur son frère Napoléon pour l'aider à choisir. Si vous voulez, Napoléon est un petit peu plus jeune que Joseph. Il vient d'arriver à Marseille. À l'époque, il vient juste de s'illustrer au siège de Toulon. Robespierre l'a fait nommer général de brigade dans l'artillerie. Disons-le clairement, c'est Joseph qui postule. Mais Napoléon aussi fait bonne impression, même si physiquement il arrive avec, je cite Boringe, des cheveux trop longs, un uniforme râpé, un teint blême et une figure en lame de couteau. Il n'empêche, Désirée tombe sous le charme de ce garçon. Naturellement, elle tente de le séduire. Elle témoignera des années plus tard que Napoléon d'alors avait, dit-elle, une gaieté bruyante et qu'il était tout à fait bon enfant. En tout cas, de son côté, Napoléon aussi est séduit. Un jour où il se retrouve avec les deux sœurs, Julie et Désirée, et avec son frère, Joseph, il va clairement montrer, afficher sa préférence. Il lance comme ça tout un trac à Joseph. « Dans un ménage, il faut qu'un des époux cède à l'autre. Toi, Joseph, tu es d'un caractère indécis, et il en est de même pour Désirée. Tandis que Julie et moi, nous savons ce que nous voulons. Tu feras donc mieux d'épouser Julie. » Ce n'est pas tout. Napoléon attrape Désirée, et toujours en parlant à son frère, il assure « Celle-ci sera ma femme. » Ah, Désirée est heureuse, elle n'en demandait pas davantage. Elle va épouser son petit général, tout va très bien. Au passage, disons clairement que Napoléon a choisi la plus jolie des deux sœurs, hein, puisque Julie, dit-on, a le teint couperosé, des traits un petit peu ingrats. Elle est âgée de 22 ans, Désirée est magnifique, brune, svelte, gracieuse. Elle possède, nous racontait André Castelot, la beauté du diable. Son nez est légèrement retroussé, sa bouche tendre, ses yeux noirs, chauds et doux, éclairent un mat de méridional. Et donc elle a, je vous l'ai dit, 16 ans. Alors les choses ne vont pas se passer exactement comme prévu, parce que normalement les deux frères, comme c'était très fréquent à l'époque, auraient dû épouser les deux sœurs. Bien, en l'occurrence, la famille Clary va hésiter à accorder la main de Désirée à Napoléon. Elle donne en revanche volontiers celle de Julie à Joseph. Pourquoi ces réserves? Eh bien, peut-être parce que cette double alliance paraissait un petit peu excessive, et que le frère de Désirée, Étienne, qui venait de sortir de prison, avait même été jusqu'à lancer « Oh, c'est assez d'un Bonaparte dans cette famille. »
Un extrait de la musique composée par Yves Gilbert il y a 30 ans pour Serge Lama. Une musique qui sera interprétée le 17 mai prochain au Théâtre Antique d'Orange dans le cadre d'un oratorio produit par Fabien Ramad, notre invité.
Oui, Fabien nous parlera de tout ça dans un instant.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Napoléon et Désiré Clary.
Alors, Napoléon regagne Toulon. Il semblerait qu'il fasse quand même pas mal d'allers-retours vers Marseille pour voir Désiré pendant tout l'hiver 94-95. Des lettres nous renseignent sur leurs sentiments. Napoléon y évoque, je cite, « des promenades où l'amour nous unissait sans nous contenter et nous enivrait d'espoir ». Il parle aussi d'une soirée enchanteresse. Napoléon aurait aussi confié à Sainte-Hélène au grand maréchal Bertrand, donc beaucoup plus tard qu'un soir, Désiré lui avait fait la surprise de se cacher sous son lit. Que s'était-il passé? Ça, l'histoire ne le dit pas, Napoléon n'est pas allé plus loin. Le 8 mai 1795, pardon, le voilà donc qui quitte le sud pour gagner Paris. Il faut imaginer sans doute de tendres adieux avec Désiré qui de son côté va quitter Marseille et suivre son beau-frère et sa sœur à Gênes puisque Joseph doit partir pour Gênes. Désiré d'un côté, Napoléon de l'autre s'inquiète. Donc chacun de son côté. Désiré écrit peu à Napoléon, certains la disent paresseuse, d'autres historiens estiment qu'elle était trop prise par son départ pour Gênes. Avant de partir, elle a écrit un brouillon. « Chaque instant me perce l'âme », écrit-elle. « Il m'éloigne du plus chéri des amis. Sa pensée me suit partout et me suivra jusqu'au tombeau. Ô mon ami, puissent tes serments être aussi sincères que les miens et puisses-tu m'aimer autant que je t'aime. Il y a une heure que tu es parti, elle paraît déjà des siècles. » Et de son côté, Napoléon demande des nouvelles à son frère. « Faut-il pour arriver à Gênes que l'on passe par le fleuve l'été ?» demande-t-il à Joseph. « Désiré ne m'écrit plus. » Et plus tard, « Désiré me demande mon portrait. Je vais le faire faire. Tu le lui donneras si elle le désire encore, sans quoi tu le garderas. La vie est un songe léger. » Oui, il feint le détachement, Napoléon. Mais son cœur est pris. C'est une évidence. Ou encore, il écrit ailleurs, « Je vois que tu fais exprès de ne pas me parler de Désiré. Je ne sais si elle vit encore. » Désiré, pour tout vous dire, s'inquiète pas mal de la vie que peut mener Napoléon Bonaparte à Paris. Elle sait qu'un certain nombre de femmes pour le moins légères entourent son fiancé dans cette capitale qui vit l'air extrêmement débauché du directoire. « Tu aurais pu, si tu avais voulu, écrire deux mots à ta bonne Eugénie », lui reproche-t-elle. Eugénie, parce que vous savez que c'est son premier prénom, c'est ainsi que Napoléon l'appelle. Eugénie qui, depuis ton départ, est dans la plus grande tristesse. L'absence et l'éloignement ne peuvent rien aux sentiments que tu m'as inspirés. En un mot, mon existence est à toi. Ou encore, il est arrivé un représentant ami de Joseph. Il nous dit qu'à Paris, l'on s'amuse. J'espère que les plaisirs bruyants de ce pays ne te feront pas oublier le paisible de Marseille et que tes promenades au bois de Boulogne avec Madame T, la Madame T en question, c'est Madame Tallien, évidemment, n'effaceront pas de ta mémoire celle des bords de la rivière avec ta bonne petite Eugénie. Ô mon ami, prends soin de tes jours pour conserver ceux de ton ami qui ne saurait vivre sans toi. Tiens-moi le serment que tu m'as fait comme je tiendrai celui que je t'ai fait. Soyons honnêtes, elle a bien raison de s'inquiéter, la petite Désirée, car déjà Napoléon est en train de céder au charme d'une veuve, Joséphine de Beauharnais, qu'il a justement rencontrée chez Barras. J'ai eu l'occasion déjà de vous raconter ici les amours du petit général de l'époque et de cette créole de la rue Chantraine. Or, mieux encore, Joséphine pourrait bien aider la carrière de Napoléon Bonaparte, qui vit dans l'espoir d'obtenir le commandement de l'armée d'Italie à l'époque. Et cette décision, évidemment, elle dépend du principal directeur, elle dépend de Barras. Napoléon écrit à Désiré, il annonce que s'il n'obtient pas le consentement de sa mère à leur mariage, le consentement de sa mère et de son frère, il est préférable, dit-il, de rompre toute liaison avec lui. Ah oui, on est en quelque sorte dans l'ultimatum avec le jeune général Bonaparte. Désiré peine à lire ses propos, voilà ce qu'elle répond. « Par où commencerai-je pour vous peindre l'affreuse situation dans laquelle votre lettre m'a plongé ? Mais quelle était votre intention ? Était-ce de m'accabler ? Ah, vous n'avez que trop réussi. Oui, cruel, vous m'avez réduite au désespoir. Ce mot de rompre toute liaison me fait frémir. Je croyais avoir trouvé en vous un ami que j'aurais aimé pour la vie. » Pas du tout. Il faut que je cesse de vous aimer car mon imagination ne trouve aucun expédient pour faire consentir à notre union. Jamais je ne pourrais me décider de parler à mes parents. Disons honnêtement qu'à l'époque, c'eût été plutôt à Napoléon de s'en aller faire une telle démarche. Du reste, Napoléon n'est bientôt plus libre. Il se marie le 9 mars 1796. Et quand Désirée apprend cette nouvelle, elle l'apprend par le courrier, bien entendu, qui lui est apporté par sa sœur, elle écrit pleine de douleur à Napoléon Bonaparte, je la cite. « Si je n'ai plus votre amour, votre amitié, que j'ai du moins votre estime, c'est la seule consolation qui me reste. Ainsi vous êtes mariée. Il n'est plus permis à la pauvre Désirée de vous aimer, de penser à vous. Je ne puis m'accoutumer à cette idée, elle me tue. Je n'y puis survivre. Je vous ferai voir que je suis plus fidèle à mes engagements. Et bien que vous ayez rompu les liens qui nous unissaient, jamais je ne m'engagerai avec un autre. Jamais je ne me marierai. » Nous avons souvent eu dans cette occasion, dans cette émission, l'occasion d'évoquer des jamais qui se sont révélés un peu piteux par la suite. Vraiment, si l'histoire, et notamment cette petite histoire, nous apprend quelque chose, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais. Napoléon réagit du reste à la lettre de Désirée. Est-il touché? A-t-il des remords? Une chose est sûre, il se met en quête d'un mari pour la jeune femme. Et il va envoyer à Rome un jeune officier de l'armée française. Je dis à Rome parce qu'elle a quitté Gênes pour la capitale avec sa sœur et son beau-frère Joseph. Joseph qui a été nommé ambassadeur auprès du pape Pie VI. Ils habitent désormais le palais Corsini à Rome. Donc Napoléon lui envoie un jeune général, le général Dufaux, qui vient en vérité pour épouser Désirée. Hein, c'est aussi clair que ça. Napoléon écrit à son frère que Dufaux est connu pour sa bravoure et son audace. Je te le recommande. Il te parlera du mariage qu'il désire contracter avec ta belle-sœur. Je crois cette alliance avantageuse pour elle. C'est un officier distingué. Allez, hop, que les choses soient réglées. On ne s'embarrasse pas très longtemps de grands principes. Le général en question a un mois pour convaincre Désiré. Bonaparte, en effet, lui a donné son congé seulement pour un mois. Le ministre de France à Gênes, monsieur qui s'appelle monsieur Fépoux, écrit à Désirée, Dufaux est aussi reconnaissant que sensible. Seulement, Désirée se demande si Dufaux n'est quand même pas trop impliqué dans la politique. En peu de temps, il soulève les révolutionnaires romains contre le gouvernement du pape. Une manifestation a même lieu jusque-là, devant la façade de l'hôtel Corsini. Cette manifestation, elle va coûter très cher à Dufaux. Il tente en effet de s'interposer entre les troupes pontificales et les émeutiers, et là, il va recevoir un coup de mousquet en pleine poitrine. Eh bien, voilà une question de mariage qui ne se pose plus. Désirée trouve sans doute le coup un peu dur, mais la voilà de nouveau tout à fait libre.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Napoléon et la destinée de Désirée Clary.
Ah oui, c'est une destinée qui nous réserve encore, vous allez le voir, un certain nombre de belles surprises. Alors, elle n'a plus de prétendants. Elle est rentrée à Paris entre-temps, il faut vous dire, dans les bagages de Joseph et de son épouse, qui donc est sa sœur, Julie. Ils se sont installés dans... Elle est en tout cas installée dans un hôtel meublé de la rue des Saints-Pères, avant de déménager au domaine de Mortefontaine. Désirée aide sa sœur à organiser les réceptions. Vous savez, évidemment, surtout que Napoléon est en train de s'imposer de plus en plus. Bonaparte, devrais-je encore dire à l'époque. Un soldat Marmont vient demander Désirée en mariage pour l'un de ses amis, Junot, qui a été trop timide pour faire la démarche. Et ça, ça déplaît beaucoup à Désirée, qui estime que ce n'est pas une attitude. Et d'autant qu'elle n'a aucune intention d'aller fréquenter de simples officiers. Elle a quand même certaines ambitions. Finalement, c'est Joseph qui va la présenter à Jean-Baptiste Bernadotte après une rencontre chez Madame de Staël. À cette époque, Napoléon Bonaparte est en Égypte. Il écrit à Joseph pour se plaindre des infidélités de sa propre épouse. « J'ai beaucoup de chagrin domestique, car le voile est entièrement déchiré, dit-il. Toi seul me reste sur la terre. Je suis ennuyé de la nature humaine. Adieu, mon unique ami. » On imagine quand même assez bien que Napoléon aurait pu être un romancier. Vous savez que ça a été c'est une ambition qu'il avait un temps caressée. Lorsqu'on lit certaines de ses lettres à cette époque, on n'a aucune peine à le croire. Bernadotte est tombée sous le charme de celle que Giraud de Lin décrivait comme bien équilibrée, fine et sensible. Elle était bonne fille, nous dit son biographe, hein, Gabriel Giraud de Lin, brave au sens méridional du terme, c'est fondamental, il faut le préciser, et avant tout recherchait la paix et le calme. D'une parfaite simplicité, elle se trouva mêlée par hasard à des événements historiques dont elle était bien loin de soupçonner l'importance et les répercussions. Chaque fois, elle s'efforçait seulement de pallier les petits inconvénients personnels naturels et immédiats qu'elle y décelait. On dit qu'elle était d'une gentillesse absolument incroyable. Quant à Bernadotte, de son côté, on l'appelle le sergent Bellejambe, hein, du fait de sa prestance. Il fait 5 pieds 5 pouces et 9 lignes de haut. Il a un long nez, des yeux bruns flamboyants, des cheveux noirs. Il est général de division. Il est bernais d'origine, faut-il le préciser. Nous l'avons dit d'ailleurs, puisque la semaine dernière nous étions en direct de Pau et que j'ai eu l'occasion de vous dire ça d'un mot, certes. Il va être nommé ambassadeur à Vienne. Joseph pousse Désiré à accepter ce beau parti et plus tard c'est elle-même qui racontera, je la cite, « Je le connaissais à peine, mais c'était autre chose que ceux que j'avais refusés. Et j'ai consenti à l'épouser lorsqu'on m'a dit qu'il était homme à tenir tête à Napoléon. » Vous voyez qu'il y a quelque chose presque de la revanche dans l'intention de notre Désiré. Il faut vous dire qu'en 1790, déjà, Bernadotte, qui à l'époque n'était qu'adjudant Fourier, s'était présenté à Marseille au domicile des Clary, figurez-vous. Il voulait y obtenir un logement. Seulement François Clary n'avait nullement envie de voir la tranquillité de sa maison troublée par le tapage que faisaient ordinairement les soldats, racontera Désiré. Il le mit amicalement à la porte avec une lettre pour son colonel dans laquelle il priait celui-ci de lui envoyer plutôt un officier. Voilà comment avaient commencé les rapports entre Bernadotte et cette famille Clary, appelée grâce à lui à de très grands, à une grande destinée. Napoléon à l'époque est toujours en Égypte et il va souhaiter du bonheur à Désiré si elle épouse Bernadotte et elle le mérite, dit-il. Le mariage de fait a lieu à Sceaux le 17 août 1798. Le couple va donner naissance à un petit Oscar en 1799. Voilà ce que nous dit Gabriel Giraudelin. La démarche de la jeune femme, dit-il, apparaît comme un geste de pardon et de pitié à la fois de la part de Désiré, geste sans calcul et purement gratuit, dicté par la bonté d'une âme restée sensible au souvenir de son premier amour et rendue indulgente par son bonheur présent. Et oui, car c'est Napoléon Bonaparte qu'elle a choisi pour parrain de son fils. D'ailleurs, c'est lui qui va lui donner ce prénom d'Oscar en s'inspirant du poème d'Ossian, évidemment. Napoléon, bientôt, quand je dis bientôt, quelques années plus tard, va devenir empereur. Je vois simplement la pendule tourner, donc nous sommes déjà en mai 1804. Joseph et Julie deviennent roi et reine d'Espagne, mais Désirée reste à Paris, où elle mène une vie tranquille auprès de son mari, ce maréchal Bernadotte, qui va être fait prince de Pontecorvo, ce qui fait qu'elle est princesse. Ça a dû faire plaisir à Napoléon de faire de son ancienne petite fiancée une princesse. Mieux encore, Bernadotte, vous le savez, va finir par accepter de devenir héritier du trône de Suède. C'est toute l'histoire de la succession de Gustave IV de Suède. Chassé du trône, son frère prend sa place sous le nom de Charles XIII. Celui-ci n'a pas d'héritier, ou plutôt son héritier meurt précipitamment. Il y a plusieurs candidats. Finalement, Bernadotte acceptera. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que notre petite mademoiselle Clary, notre petite Désirée qui avait rencontré les frères Buonaparte à Marseille dans sa jeunesse, va finir à son tour reine de Suède. Qu'a-t-elle fait sur ce trône de Suède? C'est la question que je vais poser dans un instant à Jean Tullard. Bonjour Jean Tullard.
Bonjour.
Pour évoquer non seulement Désirée Clary, mais d'une façon générale toutes ces conquêtes féminines pour une fois de Napoléon, je vous propose de commencer par le cinéma, car le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un grand nombre de films et aussi des feuilletons télé ont été réalisés pour évoquer toutes ces amours. Nous y venons avec vous dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
De la musique composée par Yves Gilbert et écrite par Serge Lama, extrait de la création mondiale Napoléon symphonique, produit par Fabien Ramade, qui est votre invité aujourd'hui, Franck
oui,
Ferrand.
Oui, Fabien Ramade, donc vous allez faire jouer toute cette comédie musicale, mais alors sans la mise en scène en quelque sorte, avec simplement la musique au Théâtre Antique d'Orange.
Tout à fait, exactement. Serge Lama, en 1982, a écrit et composé par M. Yves Gilbert l'œuvre musicale Napoléon sur un album qui s'appelait du même nom, éponyme Napoléon. Cette œuvre-là est par la suite devenue une comédie musicale en 84, de la même chose, écrit par Serge Lama et composé par Yves Gilbert. Les arrangements ont été faits différemment, car ça a été au Théâtre Marigny pendant 2 ans et demi. Et donc, un orchestre symphonique était absolument impossible de mettre tout ce beau monde dans un théâtre comme celui de Marigny, ou comme d'ailleurs dans tout autre théâtre.
Vous êtes carrément allé au Théâtre d'Orange, qui est quand même une des plus grandes salles qui existent en France. Vous ne, si j'ose dire, à 21 ans, vous ne reculez devant rien. Il y a un petit côté Bonaparte dans cette entreprise.
Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai une telle admiration pour l'œuvre Napoléon que j'ai souhaité effectivement reprendre cette œuvre-là dans un lieu majestueux, à la hauteur, je le crois, de ce que mérite cette œuvre.
Alors on en écoutera évidemment quelques extraits tout à l'heure. Si nous consacrons cette émission à Napoléon et à toutes ses femmes, c'est parce que le magazine Détour en Histoire, qui est en kiosque à partir d'aujourd'hui, consacre un grand dossier au sujet. Et dans ce dossier, je trouve, c'était presque obligatoire, si je puis dire, 3 questions posées à Jean Tullard. Et ce qui m'a beaucoup amusé, Jean Tullard, c'est qu'on vous pose ces questions à travers le cadre, le prisme du cinéma, qui est votre deuxième grande passion, en quelque sorte.
Oui, alors là, effectivement, puisque nous avons évoqué Désiré Clary, on ne peut pas échapper aux 2 films marquants qui lui ont été consacrés, car ce destin était cinématographique. Alors, le premier film, c'est Le destin fabuleux de Désiré Clary, de Sacha Guitry,
formidable,
avec Bonaparte dans le rôle, évidemment. Jean-Louis Barrault, dans le rôle de Bonaparte, et Gaby Morlaix.
Je pense que Sacha aurait bien aimé avoir Bonaparte dans son propre rôle, mais ça n'était pas possible.
Oui, et ce film avait la particularité, c'est que le générique était au milieu. Dans ce film, on arrêtait au milieu de l'action, et Sacha Guitry disait, voilà, maintenant, Jean-Louis Barrault, vous êtes trop jeune pour faire Napoléon. Moi, j'étais trop vieux pour faire Bonaparte, mais maintenant, j'ai l'âge de Napoléon. Et donc, on échangeait les rôles. Le deuxième grand film, c'est un film hollywoodien. C'est Désiré, d'un metteur en scène qui s'appelait Henri Koster. Et du moins, signait-il ses films Henri Koster, alors que son véritable nom était Kosterlitz. Austerlitz, metteur en scène qui n'avait pas le sens de la production. Et donc, ce brave Henri Koster signe une Désirée qui voit dans le rôle de Bonaparte Marlon Brando. Et Marlon Brando est le seul acteur au cinéma qui, dans le même film, ait interprété le rôle de Bonaparte et celui de Napoléon. Voilà, donc, vous voyez, déjà rien que sur l'affaire Désiré Clary, vous voyez déjà 2 films fondamentaux.
Il faut que nous l'accompagnions, cette Désiré Clary, car elle est morte très tard, entre nous soit dit, au milieu du 19e siècle seulement.
Oui.
Elle a été reine de Suède, elle a accompagné donc son mari, Bernadotte. Alors expliquez justement ce qui s'est passé une fois arrivée à Stockholm, parce que moi je l'ai abandonnée un peu vite en vérité.
Oui. Alors n'exagérons pas, elle l'a accompagnée, oui. N'oubliez pas que c'est une Provençale, qu'elle a le chaud soleil de Marseille, et donc les frimas de Suède l'ont très vite découragée.
D'ailleurs, elle est tombée malade, pour tout dire.
Oui, on l'a pratiquement rarement vue à Stockholm. Elle a donc vécu à Paris, et bien que reine de Suède, bon, c'est Bernadotte qui, lui, a été un très bon souverain de Suède.
Sûr, oui.
Je rappelle qu'au début, il n'est que prince héritier, mais il réussit à mettre la Suède dans le camp des vainqueurs de Napoléon, lui qui était un maréchal de Napoléon. Et cette brave Désirée Clary que vous nous avez montrée, effectivement, choisissant les hommes, ne voulant pas de Junot, mais acceptant Bernadotte, la même, sa dernière passion sous la Seconde Restauration, ce ne sera pas moins que le duc de Richelieu, qu'elle poursuivra de ses assiduités, duc de Richelieu, qui avait épousé une femme extrêmement laide, qui était bossue devant et derrière, qu'on lui avait imposée, mais qui est restée fidèle et qui a refusé, évidemment, les avances de la brave Désirée Bernadotte.
Alors, le fils Oscar dont je parlais va devenir le roi Oscar de Suède, quand même.
C'est... Oui, nous sommes encore en Suède avec les Bernadotte. Et c'est la dynastie qui a réussi quand Murat, lui, ne parvenait pas à se maintenir à Naples. Mais la différence vient de ce que Bernadotte avait été choisi par les Suédois, tandis que Murat avait été imposé par Bonaparte.
Quand Bernadotte vient à mourir, son fils donc lui succède, on va voir quand même la reine-mère un peu plus souvent dans son pays d'adoption. Voilà ce que nous dit Boringe. Un jour, elle décide d'aller passer quelques semaines à Paris. Elle se fait une fête de retrouver son hôtel de la rue d'Anjou. Sans doute a-t-elle aussi l'intention de gagner Marseille et de revivre par la pensée le retent où un jeune officier corse encore inconnu venait lui faire la cour rue des Phocéens. Par un beau matin d'été, la vieille reine s'embarque à Karlskrona sur une frégate commandée par son petit-fils, le futur Oscar II. Elle se réjouit du voyage. Déjà 1000 souvenirs du passé lui reviennent en mémoire, mais à peine le bateau a-t-il gagné le large qu'elle est prise d'un terrible mal de mer. Affolée, misérable, elle supplie le commandant de regagner le port. L'officier obéit, met le cap sur les côtes suédoises et elle mourra en fait dans son pays d'adoption, à Stockholm.
Oui, c'est la belle fin. C'est véritablement l'un des destins féminins les plus prodigieux de la période. Et pourtant, il faut bien dire que l'époque de la Révolution et de l'Empire est riche en destins prodigieux.
Ah ben oui, il n'y a eu que ça même en fait. Ça, sont évidemment des destinées incroyables, des carrières, des ascensions fulgurantes, parfois aussi des chutes non moins spectaculaires. Alors dans ce numéro de Détour en Histoire, il y a notamment tout un petit cahier qui s'appelle le Tourbillon des Amantes, où l'on voit outre le portrait de Désiré Clary, celui de Giuseppina Grassini, de Pauline Fourès, d'Éléonore de Noël, de La Plaigne. Elle a joué un grand rôle, cette Éléonore de Noël, il faut le dire.
Ah, elle n'a pas joué un rôle politique, mais c'est...
Malgré elle, d'une certaine
malgré
manière.
Malgré elle, oui, voilà. Dans la mesure où dame de la cour et dame d'honneur de la famille Murat, elle va être séduite par Napoléon et va lui donner un fils qu'elle voudra appeler Napoléon. Napoléon dira c'est un peu, quand même un peu trop. Il ne sera donc que Léon et il sera anobli. Il deviendra le comte Léon couché dans le testament de Napoléon, donc reconnu par Napoléon. Et les comtes Léon vont continuer.
C'est ça qui est extraordinaire. Jusqu'à une période, oui, vous l'avez connu.
J'ai
vous.
Connu le dernier comte Léon qui m'écrivait sur du papier blanc à l'encre bleue et signé en rouge et qui était d'une similitude avec les portraits de Napoléon.
Ah, c'est
extraordinaire.
Ça. Alors, c'est
malheureusement
phénoménal.
Pour lui, alors il a même un temps, il élevait des poulets dans la banlieue.
Oui, tout à fait. Oui.
Il était complètement ruiné et malheureusement pour lui, il n'a eu qu'une fille. Donc, le titre de comte Léon a disparu.
Alors, la première de ce tourbillon des amantes, c'est évidemment celle qui aura sans doute été, sinon le plus grand, qui sommes-nous pour le dire. Enfin, vous pourriez dire peut-être, Jean Tullard, mais en tout cas, l'une des grandes passions de Napoléon, c'est Marie ou Maria Walewska, bien entendu.
Oui, grande passion, n'exagérons pas quand même. En 1814, lorsqu'elle veut le rejoindre à Fontainebleau, il ne l'accepte pas. Elle viendra le voir à l'île d'Elbe, mais bon, elle ne fera que passer. Marie Walewska a été véritablement la deuxième maîtresse de Napoléon à lui donner un fils, et c'est ce qui va être déterminant pour... précipiter la chute de Joséphine. Mais Marie Walewska, c'est aussi catastrophique sur le plan politique, parce qu'elle est polonaise et parce qu'elle va être indirectement, bien entendu, responsable de la rupture entre la Russie et la France.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Mon ardente, ma polonaise, ce bouquet de roses tendues, par-delà la foule mauvaise, Marie, ton regard suspendu, sous la glace de ton ascèse inaccessible, moi, je sens que sous ta peau coule la braise rouge de ton sang.
Musique composée par Yves Gilbert et écrite par Serge Lama, dont vous avez reconnu la voix, extrait de la création mondiale Napoléon Symphonique, interprétée le 17 mai prochain au Théâtre Antique d'Orange. Vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Napoléon et de sa vie privée avec votre invité Jean Tullard, membre de l'Institut, professeur émérite à la Sorbonne, auteur notamment de Napoléon, chef de guerre aux éditions Talendier, et Fabien Ramat, qui est le producteur du spectacle Napoléon Symphonique.
Fabien Ramat, qui n'est pas encore de l'Institut, mais qui n'a que 21 ans, donc ça peut se comprendre. Cette Marie polonaise, c'est un des grands moment du spectacle, bien entendu. Qui va interpréter le rôle que tenait naguère Serge Lama sur la scène du Théâtre Marigny?
Alors cette fois-ci, il n'y aura pas qu'un interprète, il y aura trois interprètes pour représenter Napoléon, tout simplement parce que nous avons souhaité, l'équipe artistique et moi-même, que Napoléon soit représenté avec ses différents aspects psychologiques, dont vous avez sûrement beaucoup parlé ici, avec justement Napoléon empereur, mégalomane, maître du monde, comme il le prétend, l'autre guerrier conquérant, avec cette volonté-là d'avoir toute la terre à ses pieds, tout, voilà, le monde entier à ses pieds, et le côté plus sentimental, plus fragile, que l'on retrouve aussi dans ce que vous avez compté tout à l'heure, qui sera effectivement joué donc par Michael Gedge, Gilles Morvan et Régis Mengus, ce soir-là, absolument.
Donc vous avez trois chanteurs et combien de chanteuses?
Une chanteuse qui jouera Joséphine de Beauharnais, Marjorie Orial. Absolument.
Et donc, elle chantera tous les grands airs qui avaient été réservés à l'époque à Christine de la Roche, si je ne m'abuse. Et il y a donc un orchestre. Alors, ils sont là devant sur l'avant-scène. Il y a un orchestre qui est dans ce qu'on appelait l'orchestre précisément du Théâtre Antique d'Orange. Combien de musiciens?
80 musiciens,
130 choristes. 130 choristes.
Et tout le monde sera sur scène cette fois-là. Il n'y aura pas de fosse puisque nous avons réservé la fosse pour public plus large, donc justement pour qu'ils soient plus nombreux à voir cet événement. Et exactement, il y aura donc 215 personnes sur scène au Théâtre Antique d'Orange.
C'est ce qu'on va faire de notre 17 mai, Jean Tullard.
Je le souhaite.
Alors,
sincèrement.
Est-ce que vous avez l'impression que Napoléon était justement un peu fragile et qu'il a eu un côté fleur bleue, vous, Jean Tullard?
Oui, avec la première liaison, la jeune prostituée du Palais Royal, qui est un texte émouvant et extraordinaire, car il a consigné cette première aventure sexuelle. Et c'est un texte que je trouve très beau, et qu'il a même écrit. Avec Désiré Clary, les lettres que vous avez citées sont authentiques, elles viennent de la famille, donc ce n'est pas du tout inventé. Il y a ce style fleur bleue. Avec Joséphine, alors c'est du délire. C'est même le monstre de monde, si vraiment il a bien les pieds sur terre, et il les a, puisqu'il mène la campagne d'Italie. Et donc, on va énumérer toutes les maîtresses que vous avez énumérées, qu'il a eues. Mais ce qui me semble plus intéressant, ce sont les femmes qu'il n'a pas eues.
Ah, oui.
Car pas plus qu'il n'a réussi à faire la conquête de l'Angleterre, il a tout conquis, mais pas l'Angleterre. Eh bien, là, il y a les femmes qu'il n'a pas eues. Alors, il y en a notamment les deux plus belles de la période, c'est-à-dire d'un côté Madame Récamier. Alors est-ce que Madame Récamier, on pouvait la conquérir? Vous savez, bon, sur les particularités physiques de Madame Récamier, il y a toute une légende, mais enfin il semblerait que Chateaubriand ait quand même réussi. Bon, en tout cas, il n'a pas eu...
Il faut que vous soyez un tout petit peu plus explicite pour ceux
non,
qui ne connaissent pas.
Non, parce que j'ai aménagé la pudeur des auditeurs.
Bon.
Et donc, la deuxième, très belle... Également, c'est Madame Regnault de Saint-Jean d'Angély. Les deux ayant été peintes, d'ailleurs leurs tableaux sont au Louvre. Madame Regnault de Saint-Jean d'Angély, épouse d'un conseiller d'État, qui a été même ministre d'État, qui elle a eu un fils, qui sera maréchal de Napoléon III, et qui, elle aussi, a refusé les avances de Napoléon. Sont parmi les... Je prends celles-là parce qu'elles sont les plus belles. Et puis...
C'est quand même un fait d'arme de pouvoir dire ça.
Et puis, il y a celles qui voulaient être eues.
Alors ça, elles
par
devaient être nombreuses.
Napoléon,
elles, oui.
Et qui ne l'ont pas été. Et il y en a une extraordinaire. Et Napoléon n'en a pas voulu, évidemment. C'est Madame de Staël.
Évidemment.
Madame de Staël, qui
des
imaginait que si elle avait couché avec Napoléon, vous imaginez cette intelligence extraordinaire, ce génie militaire, ça ne pouvait donner qu'un super-héros.
Oui.
Superman, Iron Man.
Le fils de Napoléon et de Germaine de Staël,
oui,
ça aurait
oui,
été
voilà.
Incroyable.
Ça aurait été.
Le petit-fils de Necker,
oui,
par la même
oui,
occasion.
Batman et Spider-Man pouvaient se rhabiller. C'était fini. C'était le héros par excellence.
Ah oui, ben il n'aura jamais vu le jour, celui-là, évidemment.
Mais non, voyez.
Alors, on a l'impression quand même que Napoléon était un grand amoureux, qu'il avait une véritable propension au lyrisme amoureux, mais que ce n'était pas un très grand amant, semble-t-il. Qu'est-ce
non,
qu'on peut dire hein?
Non, il était même un amant pressé. Vous savez ce qu'on disait de Talleyrand? Suaviter in modo, non fortifère in re.
C'est pratique.
Je laisse en latin pour, parce que j'aménage encore la pudeur, mais vous avez compris. Non, suaviter in modo, non fortifer in re. Bon, dans le cas.
Il y a le mot et la chose, en
quelque
sorte. Oui,
c'est ça. Et donc, Napoléon, c'est pas quelqu'un qui perd son temps en manière suave pour séduire. et qui est assez rapide dans la conclusion. Et, alors c'est évidemment pour lui le repos du guerrier. Il y a énormément de filles qui lui sont, ou de femmes qui lui sont amenées pendant les campagnes, dont nous n'avons pas les noms, dont, sur lesquelles nous ne sommes pas du tout renseignés. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1814, quand il est à Fontainebleau, voilà qu'au moment où Marie-Louise pourrait le rejoindre, il,
sa seconde épouse.
Oui, il attrape une maladie vénérienne. Ce qui montre bien qu'il y avait des lésions. Et comme il a cette maladie vénérienne, il est très embarrassé à la pensée que Marie-Louise va le rejoindre. Et...
Il y en aura d'autres, jusque sur l'île de Sainte-Hélène. On pense à Madame de Montholon. Alors, on pense à Betsy Balcombe aussi.
Betsy Balcombe,
simplement une petite amourette comme ça.
Ça,
oui.
C'est notre ami de Caunes qui a imaginé dans le film Monsieur N que bon, il y avait une sorte d'idylle puisque effectivement Betsy Balcombe va épouser un Monsieur Abeille. Abeille impériale. Donc c'est...
Et, voilà.
Et donc, Antoine de Caunes a imaginé que Napoléon s'évadait de Sainte-Hélène pour
oui.
aller rejoindre aux États-Unis. Mais en revanche, alors Madame de Montholon, là, c'est vrai, et je dois dire que ça pourrait vous arriver aussi, j'ai vu la dernière maîtresse de Napoléon.
Ah mais oui.
Elle est enterrée à Montpellier, elle a été momifiée dans un cercueil vitré, et c'est un choc de se dire, cette femme que je vois là, qui est parfaitement conservée, enfin, vous voyez, Napoléon l'a tenue dans ses bras. Là, c'est une belle conclusion.
Ça, dans le concours qui m'oppose à la chère Clémentine Portier-Kaltenbach, c'est à qui connaîtra la relique la plus inouïe ou touchera l'objet historique le plus insensé. J'avoue que celui-là n'est pas mal dans le genre.
Ah,
hein. Ça me donne des idées.
Oui.
Enfin, maintenant, ça y est, ça a été dit sur l'antenne, donc ça va être plus difficile.
Non, il faudra graisser la patte du sacristain.
C'est ça, évidemment.
Parce qu'on ne la montre pas comme ça. On voyait d'ailleurs aussi Talleyrand avalancer pendant un temps, et puis là, on l'a retiré.
Alors, dans Des tours en histoire, on ne se contente pas évidemment des maîtresses de l'empereur. On parle de sa famille, on parle de sa mère qui a joué un rôle essentiel, de ses sœurs, etc., etc. Moi, j'ai décidé d'axer les choses sur ses maîtresses, mais il y a bien d'autres femmes qui ont joué un rôle important. Ce sur quoi j'aimerais que nous concluions, Jean Tullard, c'est la vision que Napoléon a des femmes en général. Il a assez mauvaise presse sur ce plan, du fait du code civil notamment, etc.
Oui, c'est vrai que heureusement qu'il y a Pauline, heureusement qu'il y a Marie Valeska, heureusement qu'il y a Joséphine, sinon le malheureux auteur de livres sur Napoléon n'aurait pas le public féminin qu'il conquiert grâce précisément à Joséphine et aux autres. Napoléon n'est pas misogyne, mais c'est un soldat. La façon dont il évoque les femmes, dont il en parle, notamment dans le mémorial de Sainte-Hélène, tenez, allons-y, la façon dont il parle de Désiré Clary dans le journal de Gourgaud, où il dit, tant pis, c'est, les gens se bouchent les oreilles, je lui parle devant et par derrière. J'ai eu ces deux pucelage. Bon, c'est un terme grossier à l'égard du fille dont il a été la fiancée, etc. Ce qui vous montre, et c'est pas Gourgaud qui a inventé, ce qui ne serait pas permis. Donc, il note ça, ce qui montre bien un certain mépris de Napoléon pour la femme, repos du guerrier, et mère de soldats, car on a besoin de ventre pour effectivement avoir ensuite des soldats. Donc, Napoléon et les femmes, c'est pas... Bien sûr, je rends hommage à Frédéric Masson. J'ai préfacé la réédition
de
Salé.
Mais oui, de Napoléon et les femmes.
Mais bon, Napoléon et les femmes, c'est bien, parce que ça nous assure, à nous, historiens de Napoléon, quelques lectrices féminines. Mais soyons cyniques, ce n'est pas
l'essentiel.
Ce n'est pas l'essentiel. Non. Napoléon est ailleurs.
Alors, Napoléon est aussi un peu parmi les femmes, mais pas tellement, nous dites-vous. Jean Tullard, je ne sais même plus quel ouvrage citer de vous, tellement il y en a. Évidemment, les deux grands dictionnaires amoureux, celui de Napoléon et celui du cinéma. Napoléon, chef de guerre chez Talendier, c'était votre dernier ouvrage, donc en novembre 2012. Il y en a toujours en préparation, bien entendu. J'ai cité tout à l'heure l'exposition Joséphine du musée du Luxembourg, là depuis le 12 mars. Magnifique exposition au musée du Luxembourg. Et puis il y en a une qui va ouvrir au musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau, donc là dans quelques jours. Par ailleurs, on reconstitue le bivouac de l'empereur et les adieux à la garde à Fontainebleau les 19 et 20 avril prochains avec plus de 350 figurants. On
on n'en finirait pas d'évoquer tout ce qui tourne autour de Napoléon. Bien entendu, le numéro de printemps de Détour en histoire et dans les kiosques, avec ce grand dossier sur Napoléon et les femmes, amours orageuses, manœuvres politiques, les secrets d'alcôve ont-ils eu une influence sur le destin de l'Empire, se demandent les rédacteurs de Détour en histoire. Quant à moi, j'y ai parlé, en l'occurrence, de Versailles. Et puis, nous allons en entendre encore quelques petites notes, le 17 mai prochain, au Théâtre Antique d'Orange, ce grand spectacle avec 80 musiciens, 120 choristes, 5 solistes qui vont interpréter ce grand spectacle qui avait été créé il y a des années, il y a 30 ans, par Serge Lama autour de Napoléon. Et c'est donc Fabien Ramade qui sera, sinon à la baguette dans la fosse, en tout cas à la baguette en régie. Merci beaucoup. Il y aurait bien des choses à citer sur l'Empire, mais pour l'instant, nous allons nous en tenir là avec quelques notes de musique.
Cet enfant, je ne l'aurai pas.
C'était un extrait du spectacle Napoléon symphonique. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Benoît sur l'origine de l'expression « aller à Canossa ».
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Benoît qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait connaître l'origine de l'expression « aller à Canossa ».
Alors Canossa, vous savez, c'est le nom d'une petite ville italienne, toute petite ville qui se trouve en Émilie-Romagne. Pour être plus précis, c'est à 20 km au sud de Parme, si vous voulez. Alors pourquoi aller à Canossa ? Pour le comprendre, il faut remonter au XIe siècle, au temps de ce qu'on a appelé la querelle des investitures. Il faut vous dire qu'à l'époque, l'Église était en crise, les empereurs germaniques, enfin ils s'appelaient pas encore tout à fait comme ça, on les appelait rois des Romains à l'époque, intervenaient pour élire le pape. Ils estimaient avoir aussi le droit de choisir, de nommer les évêques. Sauf qu'on est à l'époque de la réforme grégorienne, que l'Église ne se laisse plus faire. Et en 1076, le pape Grégoire VII va décider de s'opposer à ce pouvoir de nomination. Et l'empereur, Henri IV en l'occurrence, est furieux. Le pape monte d'un cran, il excommunie l'empereur qui déclare aux vassaux qu'ils ne sont plus liés par leur serment de fidélité, et ça va entraîner une révolte des princes en octobre 1076. Et là, vraiment, Henri IV est obligé de plier. Il apprend que le pape est de passage dans une ville italienne, donc à Canossa, et il décide d'aller à sa rencontre. On est là au plus fort de l'hiver, hein, il va devoir traverser les Alpes dans des conditions terribles. Le pape souhaite quand même donner une bonne leçon à Henri IV, et il décide de garder les portes de sa résidence closes. Et la légende veut que le souverain est attendu pendant 3 jours avant de pouvoir aller présenter ses devoirs au pape. Il s'est donc humilié pour la circonstance. Voilà l'expression « aller à Canossa », c'est tout simplement s'humilier, faire en quelque sorte amende honorable.